Le monde moderne, en fait, il est complètement bâti sur une sorte de confiance aveugle envers des étiquettes. Tu sais, les pourcentages, les promesses imprimées en tout petit caractère.
Oui, totalement. On ne remet presque jamais ça en question au final.
Bah non, exactement. Genre, quand on achète une bouteille de vinaigre blanc au supermarché avec la mention à 8 degrés, ou alors, pire, un déboucheur liquide hyper corrosif, comme le Destop, qui affiche fièrement un truc comme 10% d'hydroxyde de sodium.
Et on verse ça direct dans nos canalisations ou sur notre nourriture pour le vinaigre?
C'est ça, on présume juste que l'usine a dit la vérité. Mais en réalité, comment on vérifie cette information? Je veux dire, qui s'assure que ce 10% est bien un 10% et pas un 2% qui serait totalement inefficace ou un 20% dangereusement instable?
C'est une super question, parce que derrière cette confiance du quotidien, il y a une vraie exigence de vérité matérielle absolue, une vérité qu'il faut carrément aller arracher à la matière elle-même, au niveau moléculaire.
Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va parler de chimie, mais d'une façon très concrète. On ne prépare pas un examen là, on mène l'enquête.
Exactement. Cette quête de vérité en chimie analytique, ça porte un nom. C'est le dosage par titrage. Et l'objectif, c'est pas juste d'observer la matière passivement, mais vraiment de la forcer à se révéler.
Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on plonge au cœur de cette technique fondamentale pour comprendre comment ce véritable travail de détective révèle l'invisible dans notre réalité.
C'est vraiment une méthode d'investigation d'une précision redoutable, en fait. On va utiliser une certitude absolue pour démasquer une inconnue.
Ouais, le principe de base d'un titrage, je trouve que ça ressemble beaucoup à un audit financier de très haut niveau. Genre, on a une espèce chimique dont on ignore la concentration exacte, c'est ce qu'on appelle le titrer.
Voilà, c'est notre compte en banque caché, pour filer ton analogie.
C'est ça. Et pour l'obliger à avouer ce qu'il contient, on va le faire réagir avec un agent de confiance, le titrant. Lui, on connaît sa concentration à la décimale près, c'est notre auditeur implacable, quoi. Et on fait tomber cet auditeur goutte à goutte dans la solution.
Sauf que cette interaction entre le titré et le titrant, elle ne peut pas se faire n'importe comment. La réaction chimique qui sert de moteur à cette enquête, ce qu'on appelle la réaction support, elle doit impérativement obéir à trois règles d'or. Trois caractéristiques non négociables.
D'accord, donc c'est hyper strict. C'est quoi la première règle?
La première, c'est la rapidité. Au niveau cinétique, il faut que la réaction soit instantanée. Dès qu'une goutte de titrant touche la solution, bam, l'interaction doit se produire.
Ouais, logique. Parce que si la réaction prenait des heures, on continuerait à verser du liquide en pensant qu'il ne se passe rien.
Exactement, et ça fausserait totalement la mesure. Du coup, pas de temps d'attente. Ensuite, la deuxième condition, c'est que la réaction doit être totale.
C'est-à-dire?
Les molécules ne peuvent pas juste s'arrêter à un point d'équilibre confortable. Non, pas du tout. La moitié des réactifs ne peut pas décider de faire une pause, quoi. L'auditeur doit inspecter le moindre centime. La réaction doit aller jusqu'à l'épuisement complet d'au moins l'un des deux partenaires.
Ok, donc rapide, total et la troisième au grond.
Elle est tout aussi cruciale. La réaction doit être unique ou totalement sélective, si tu préfères.
Ah, parce que dans un bécher, il y a plein d'autres trucs qui flottent, c'est ça, Alès?
Bah oui, on trouve souvent d'autres espèces chimiques, des impuretés, des ions spectateurs. Et le titrant doit ignorer toutes ces distractions. Il doit s'attaquer exclusivement à la molécule cible.
Parce que si des réactions parasites se déclenchent en même temps, notre calcul final part dans tous les sens et devient inexploitable.
Carrément inexploitable, ouais.
Ok, donc si on respecte ces trois règles rapides, totales, uniques, on peut viser le point culminant de cette méthode, qui est l'équivalence. C'est un concept fascinant, franchement.
C'est le Graal de la chimie analytique.
Ouais. Et plutôt que de voir ça comme une simple équation sur un tableau, j'aime le visualiser comme l'assemblage d'un immense puzzle cryptographique, ou comme un bal parfaitement chorégraphié.
Ah, je vois l'idée.
Genre, on a un nombre inconnu de serrures dans le bécher, et on y fait tomber des clés, une par une. L'équivalence, c'est la milliseconde exacte, ce point de rupture cosmique où chaque serrure a reçu sa clé spécifique.
C'est une belle image. Il ne reste plus aucune serrure libre et on n'a pas versé une seule clé de trop. Les réactifs ont été introduits dans des proportions stoichiométriques parfaites et ils sont tous anéantis.
Anéanti, le mot est fort.
Mais il est physiquement juste, parce qu'à cet instant précis, les réactifs limitants s'annulent mutuellement. Et c'est là que la rigueur mathématique prend le relais.
Ah oui, avec la fameuse formule basée sur les coefficients.
Voilà. À l'équivalence, on utilise une équation fondamentale qui relie les quantités de matière grâce à leurs coefficients stoichiométriques. Si la réaction exige deux molécules de titrant pour neutraliser une molécule de titré, la formule intègre cette proportion.
Et du coup, on peut déduire la concentration initiale avec une simple multiplication en utilisant le volume exact qu'on a versé. C'est super élégant mathématiquement, mais ça pose un problème pratique majeur, non ?
Lequel ?
Puisque les molécules sont invisibles, comment sait-on que la musique s'est arrêtée ? On ne voit pas des milliards de minuscules serrures se refermer au fond d'un bécher.
Ah, ça, c'est tout l'enjeu. Cette impossibilité de voir les atomes oblige la chimie à exploiter des signaux extérieurs, des phénomènes macroscopiques comme des signaux de détresse que la solution nous envoie.
D'accord. Et la méthode la plus intuitive, j'imagine que c'est la couleur, la colorimétrie.
Exactement. On se base sur un changement brutal d'absorption de la lumière. Un cas d'école très parlant, c'est le titrage du diode.
Ah oui, le diode. C'est ce truc avec une coloration jaune-brun hyper intense, un peu comme de la bétadine, c'est ça ?
C'est ça. Et si on le titre avec du thiosulfate, qui lui est complètement transparent, la solution s'éclaircit très progressivement.
Jusqu'à la cassure finale, j'imagine.
Absolument. À l'approche de l'équivalence, on a un jaune très très pâle, et puis... paf, une seule goutte supplémentaire tombe et le liquide devient instantanément incolore, comme de l'eau pure.
Waouh, c'est super visuel. Mais il y a encore plus spectaculaire, non ? Le titrage manganimétrique.
Oh oui, là c'est une manifestation encore plus violente de ce basculement. Si on cherche à doser des ions fer 2, qui donnent une très légère teinte verdâtre à l'eau, on va utiliser du permanganate de potassium.
Le fameux permanganate, c'est violet très foncé, c'est ça ? Presque un magenta puissant.
Exactement. Et le mécanisme visuel est brillant. Chaque goutte violette qui tombe dans le bécher est immédiatement détruite par le fer 2.
Donc on verse, ça disparaît. On verse, ça disparaît.
Voilà. Mais à la seconde où le tout dernier ion fer 2 est consommé à l'équivalence, parfaite, donc la goutte de permanganate suivante n'a plus personne avec qui réagir.
Ah !
Elle reste intacte. Oui. Et comme son pouvoir colorant est immense, cette unique goutte excédentaire teinte instantanément tout le récipient en rose persistant. Le signal d'arrêt est immédiat. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste entre l'action humaine et la réaction chimique.
C'est-à-dire ?
Eh bien, d'un côté, tu as la lenteur mécanique de l'humain qui manipule son robinet avec une prudence infinie. Et de l'autre, la soudaineté du phénomène à l'équivalence. C'est un saut dramatique, une transition brutale où tout l'environnement bascule en une fraction de seconde.
C'est poétique, presque. Sauf que la chimie n'est pas toujours aussi généreuse visuellement. Il y a plein de réactions où les espèces sont et restent désespérément transparentes.
Malheureusement, oui. Impossible d'attendre un flash rose dans ces cas-là. On doit traquer une autre variable. Et quand on manipule des acides et des bases, l'indicateur naturel, c'est le pH. On bascule dans la pH-métrie.
Donc là, on met des machines en jeu, on plonge une sonde directement dans le mélange et on enregistre la valeur du pH sur un ordinateur, millilitre par millilitre.
C'est ça. Et le tracé de ces données sur un graphique révèle un truc très particulier. Il faut se rappeler que le pH est une échelle logarithmique.
Du coup, au début, la courbe avance très paresseusement, presque à l'horizontale.
Oui, et soudainement, au voisinage de l'équivalence, elle s'emballe complètement. Elle forme un véritable mur vertical.
C'est le fameux saut de pH, un bond énorme avec juste une infime fraction de goutte.
Exactement. L'enjeu, du coup, c'est de trouver le volume équivalent avec une précision extrême en plein milieu de ce mur vertical. Parce que placer un point au hasard sur cette ligne, ça ne suffit pas du tout.
Et c'est là que les maths viennent à la rescousse, non ?
Avec la méthode de la dérivée. J'adore cette partie. Ah, la dérivée. Oui, c'est l'outil parfait pour ça, vu qu'elle mesure la vitesse de variation d'une fonction.
En gros, sur la partie plate, le pH change peu, donc la dérivée est proche de zéro. Mais pendant le saut de pH, la vitesse tend vers l'infini. Sur l'écran, ça fait un pic hyper fin, comme une aiguille pointée vers le haut.
C'est une super description. Le sommet absolu de cette aiguille, le point d'inflexion, il nous donne le volume équivalent avec une précision chirurgicale. Et cette courbe révèle aussi une autre donnée capitale, à la demi-équivalence.
La demi-équivalence, c'est quand on a versé exactement la moitié du volume nécessaire pour atteindre le seau, c'est bien ça ?
Tout juste. À ce point précis, la valeur du pH correspond très exactement au pKa du couple acide-base étudié. C'est une sorte d'empreinte digitale moléculaire, en fait. Ça permet d'identifier formellement l'acide qu'on titre. Totalement. D'ailleurs, pour revenir à la réalité du quotidien, reprenons ton exemple de la bouteille de vinaigre oubliée dans un cellier.
Ah oui, la fameuse étiquette à 8 degrés, donc 8% massique d'acide éthanoïque. Si on a un doute sur l'acidité, on fait une pH métrie.
On pourrait. Mais faire un graphique avec un ordinateur et une sonde, c'est long. En fait, on peut utiliser un raccourci visuel fascinant, un indicateur coloré, comme le rouge de Cressol, par exemple.
Donc on fusionne les deux méthodes. On prend notre acide et l'hydroxyde de sodium, qui sont tous les deux transparents, et le rouge de Cressol sert de traducteur, en gros.
C'est exactement ça. Et le choix du rouge de Cressol n'est pas du tout un hasard. Sa zone de virage, la plage où sa molécule passe du jaune au rouge-violet, se superpose au millimètre près avec le mur vertical du seau de pH de notre vinaigre.
On force une réaction invisible à allumer une alarme visuelle au moment critique. C'est brillant. C'est de l'ingénierie moléculaire appliquée.
Oui, mais il reste encore une frontière à franchir.
Laquelle ?
Que se passe-t-il quand la réaction ne produit aucun changement de couleur et qu'elle n'implique aucun échange de protons modifiant le pH ?
Ouh là ! Une dynamique totalement silencieuse, quoi.
Comment on la mesure, à ton avis ?
Par l'électricité ?
Bingo ! C'est là que la physique électrique entre en jeu. On abandonne le pH et on déploie le titrage conductimétrique. On plonge une cellule pour mesurer la conductivité globale, le fameux sigma.
Ah, on évalue la capacité de l'eau à faire circuler un courant. Mais du coup, la courbe ressemble à quoi ? Plus de mur vertical ?
Non, l'architecture change du tout au tout. Fini le saut abrupt. La conductimétrie, ça génère des droites. La courbe descend ou monte de manière très linéaire. Et soudain, bam, l'angle s'inverse ou s'accentue brutalement.
Ça forme un coude, en fait. Un V ou un V inversé.
Voilà. Un coude très net. Et le point d'intersection géométrique entre la droite avant et la droite après, ça correspond au volume recherché.
Mais physiquement, pourquoi ça fait un coude ? Faut regarder les ions, c'est ça ?
Absolument. Dans la solution, c'est les ions qui transportent le courant. Mais ils ne sont pas tous égaux. Chaque ion a sa propre conductivité molaire ionique, une sorte de coefficient de performance.
Ok, prenons un exemple concret. Si on dose le sel de table, donc les ions chlorure, avec du nitrate d'argent, il se passe quoi ?
Bien, dès que l'ion chlorure rencontre l'ion argent, ils réagissent pour former du chlorure d'argent. Et ça, c'est un solide qui précipite, qui tombe au fond du bécher.
Ah, et un solide, ça ne conduit pas le courant. Donc, à chaque goutte versée, on capture un ion chlorure très mobile et on l'emprisonne au fond.
Exactement. En échange, la goutte apporte un ion nitrate. Mais l'ion nitrate est un transporteur un peu moins efficace que le chlorure. Donc, globalement, la conductivité baisse. On a une droite qui descend.
Jusqu'à l'équivalence. Là, tous les chlorures sont emprisonnés.
Oui. Et les gouttes de nitrate d'argent qu'on ajoute ensuite ne trouvent plus de partenaire pour précipiter.
Donc les ions s'accumulent massivement et librement dans l'eau.
Et la droite remonte d'un coup. Le fond du ravin, le coude, c'est notre équivalence. C'est hyper élégant. C'est très élégant. Mais il y a une anomalie troublante quand on regarde les scores de performance de ces ions.
Ah bon ? Genre quoi ?
Bah, la plupart des ions, comme le sodium ou le potassium, ont des scores classiques, autour de 5 ou 7 millisiemens mètre carré par mol. C'est leur vitesse de croisière. Mais deux ions spécifiques explosent ce plafond.
Laisse-moi deviner, l'ion hydronium et l'ion hydroxyde.
Exactement. L'hydronium pointe à 35 et l'hydroxyde frôle les 20. Ils sont 4 à 5 fois plus performants que tout le reste du tableau périodique.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi ils sont aussi rapides ?
C'est dû à un phénomène quantique rare, le mécanisme de Grotius. En temps normal, un pauvre ion sodium doit se déplacer physiquement à travers l'eau, bousculer les molécules.
Oui, j'aime bien comparer ça à un contier solitaire. Tu sais, il court de la rivière jusqu'à l'incendie avec son seau d'eau lourd, en bousculant une foule compacte. C'est hyper laborieux.
C'est la friction de diffusion, oui. Mais le mécanisme de Grotius, c'est l'inverse. C'est une chaîne de pompiers parfaitement organisée.
Hein ? Au lieu de courir, il se passe le seau de main en main.
Voilà. L'ion hydronium a un proton en trop. Au lieu de traverser l'eau laborieusement, il transfère juste ce proton à la molécule d'eau voisine via les liaisons hydrogènes. Et cette voisine le passe à la suivante, et ainsi de suite.
Donc le proton saute de molécule en molécule à la vitesse de l'éclair. Aucun atome d'oxygène ne se déplace vraiment. L'information électrique traverse le bécher de manière quasi instantanée. C'est fou.
C'est ce fameux saut de proton. Et c'est cette chaîne de transfert qui rend les titrages acido-basiques par conductimétrie incroyablement nets.
Et j'imagine que cette précision, ça ne sert pas qu'à amuser les chimistes en laboratoire. Il y a de vraies applications écologiques, non?
Absolument. Le suivi des nappes phréatiques littorales en est le parfait exemple. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, le pompage massif de l'eau douce crée un déséquilibre de pression.
Ce qui crée une aspiration et attire l'eau de mer directement dans les réserves d'eau douce, l'intrusion saline.
C'est ça. Et pour surveiller ça, on utilise le titrage conductimétrique au nitrate d'argent dont on vient de parler. On dose des ions pourrures. L'enjeu est vital. Une eau saine doit avoir moins de 50 mg par litre de chlorure.
Et si le titrage révèle plus de 500 mg?
L'eau devient impropre à la consommation et l'infrastructure de la région est menacée. Le titrage, c'est un système d'alerte précoce. Il quantifie l'invisible avant la catastrophe.
C'est fascinant et ça ne s'arrête pas à l'eau potable. Même en agriculture, c'est crucial. J'ai lu ce truc sur les agneaux.
Ah oui, la lithiase urinaire.
Ouais, la gravelle. Des calculs rénaux hyper douloureux qui peuvent tuer l'animal. Et pour éviter ça, l'éleveur doit acidifier leurs urines avec du chlorure d'ammonium, genre 300 mg par kilo.
Et cette solution ne tolère aucune erreur. Un sous-dosage ne sert à rien et un surdosage serait toxique. L'éleveur ou le vétérinaire doit obligatoirement réaliser un titrage parfait avant de l'administrer. L'acte chimique devient un acte de soin direct.